Classique 21, you rock.
Radio Caroline.
Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord de notre cargo Radio Caroline pour un numéro en mode post-scriptum qui revient sous d'autres angles ou en mode digression sur des thèmes récemment abordés. Un réjouissant périple, je vous l'assure, qui nous emmènera de la banlieue de Sheffield dans les années 80 au Tokyo des 70s, non sans un détour par le rire de résistance de Pierre Desproges et une succulente interview de Bachung menée en 1977 par un Jacques Mercier plus détendu que jamais, un dimanche en fin de soirée sur La Première. Il y a quelques semaines, notre cargo fendait les vagues trip-hop de Bristol au cours des années 90 avec les dessous de l'histoire de Portishead, Massive Attack, Tricky, périple que vous pouvez évidemment toujours faire si vous l'avez raté grâce au podcast disponible sur Ovio et toutes les plateformes. Ce qui m'a donné envie de nous plonger dans le son d'une autre ville, musicalement fertile une décennie plus tôt, mais ville que l'on cite moins que d'autres, Sheffield. Et ce, via un lieu incroyable par où passeront les futurs Heaven 17, ABC, Human League ou encore Pulp, le studio électrophonique d'un certain Ken Patton. Car il faut le savoir, à la fin des années 70 et au début des années 80, le logement social d'un mécanicien de Sheffield deviendra, sous le nom de studio électrophonique, l'écrin dans lequel les membres des groupes précités pourront expérimenter et s'épanouir. Comme le raconte un témoin de cette époque, de la rue, la maison mitoyenne sans prétention de Ken Patton ressemble à n'importe quelle autre habitation du quartier ou de n'importe quel autre quartier d'après-guerre en Grande-Bretagne. Sauf qu'à l'intérieur, des musiciens ont façonné le son de la future pop britannique grâce à des synthétiseurs posés sur la table du salon, une batterie électronique installée dans la chambre parentale ou même un vocodeur artisanal fabriqué à partir de vieux microphones de la RAF et de rouleaux de papier toilette posés, eux, dans une extension du rez-de-chaussée. C'était une maison typique de la classe moyenne de la banlieue de Sheffield, avec une épaisse moquette et d'énormes canapés à motifs floraux, se souvient Martin Ware, qui formera plus tard The Human League et Heaven 17, mais qui, à l'époque, vient de créer son premier groupe The Future. C'était vraiment confortable et charmant, poursuit-il, avec une petite véranda à une extrémité. C'est donc avec ses potes du groupe The Future qu'il se rend chez Ken en 1977 après avoir passé une annonce dans un journal local pour trouver un endroit où enregistrer. À leur arrivée, ils s'attendaient à ce que Ken les emmène dans un studio, peut-être dans son garage aménagé en studio, avant d'apprendre que non, ils enregistreront dans le salon. Martin Ware se souvient, j'ai demandé « Ok, mais on met où les synthés, tout le matos ?» Il m'a répondu « Oh, posez-les sur la table basse. » Il a sorti son enregistreur 4 pistes et, si je me souviens bien, une minuscule table de mixage. On était à moitié assis sur le canapé bon marché, à moitié par terre. C'était la genèse la plus improbable d'un projet vraiment avant-gardiste. Et tout cela, eh bien, Martin Ware l'a raconté lui-même, comme on va l'entendre.
The day arrived and we headed to what seemed to us quite a posh part of suburbia on the outskirts of Sheffield to meet Ken Patton, who we hoped was to be our George Martin. What confused and surprised us is that he didn't actually have a studio at all. And when we were shown the location of where we hoped the magic would happen, it was in fact a chintzy, flowery front room, complete with voluminous armchairs, brocade curtains and deep pile carpets. The open plan design led to the kitchen at the end of the ground floor with a huge coffee table dominated by the aforementioned Akai 4-track tape recorder, accompanied by a small mixing desk. Where should we put our synths? I asked.
The good men and Satan. We're talking in violent summer.
My young Brooklyn mind.
That's a whole blonde murder.
The Future, qui deviendra plus tard Human League, tel qu'enregistré dans le salon et autres pièces de la petite maison de Ken Patton en 1977. Le Ken Patton dispose à l'époque d'un équipement de pointe vraiment rare. Martin Ware expliquera d'ailleurs que l'enregistrement de son groupe dans ce studio improbable a été extrêmement important pour son évolution. Si la plupart des maisons de disques à qui ils feront écouter la cassette les éconduiront au bout de 5 minutes, il s'agissait de paysages sonores avec des voix, dit-il, certaines, Virgin en l'occurrence, en percevront le potentiel. Ils nous ont dit « Vous devriez écrire des chansons plus structurées, mais c'est très intéressant, revenez nous voir quand vous aurez d'autres morceaux. » Toujours au sujet de ce studio étonnant, incroyable, installé dans les pièces de vie d'un logement social de la banlieue de Sheffield, Jarvis Cocker, du groupe Pulp, raconte avoir été émerveillé par le système de vidéosurveillance installé par Patton, système qui leur permettait d'observer depuis le rez-de-chaussée leur batteur qui, lui, jouait dans une chambre. C'était en 1981 et c'est ainsi qu'ils réaliseront une maquette que Cocker enverra à John Peel, célèbre et influent DJ de BBC Radio 1, grâce à laquelle ils auront la possibilité d'enregistrer une session pour les ondes publiques anglaises avant même d'avoir signé un contrat avec un label. Autre groupe à avoir réalisé ses premiers enregistrements dans la maison de Ken Patton, au creux de son studio électrophonique, le groupe qui se fera plus tard connaître sous le nom d'ABC, mais qui s'appelle à l'époque Vice Versa. En dehors de groupes pop émergents, Ken Patton accueillera également des groupes de guitare hawaïens, des artistes folk, des chanteurs engagés politiquement et tous ceux qui sont prêts à débourser 15 livres sterling pour enregistrer chez lui. « Je pense que sa femme tolérait son passe-temps », explique le réalisateur d'un documentaire dédié à cet endroit. Mais il y avait certaines règles. Si les groupes venaient, ils devaient se déchausser, ils n'avaient pas le droit d'utiliser les toilettes à l'étage et il y avait une bâche en plastique sur le lit pour qu'ils ne salissent pas le duvet. C'était un mélange assez bizarre entre un studio ultra-moderne et une maison de banlieue. Un des groupes racontait qu'à 16h, tous les après-midi, quel que soit l'avancement de l'enregistrement, tout s'arrêtait quand la femme de Ken arrivait avec une tasse de thé et ses médicaments pour le cœur. Ce que confirme Martin Ware. Vers la fin de notre toute première journée d'enregistrement chez lui, on était vraiment chaud, dans le mood. Mais à 18h, Madame Patton est entrée et a dit « Ken, le dîner est servi ». Alors il a répondu « Désolé les gars ». On va devoir s'arrêter là pour aujourd'hui. On était en plein milieu de quelque chose de vraiment profond, intense. Mais bon, le dîner était servi, ça n'attend pas.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Autre post-scriptum, cette fois au récent épisode qui avait exhumé des archives télé de la RTBF, des interviews éclairantes, étonnantes, données au début des années 80 par Ralph Hütter de Kraftwerk, Joe Lemaire de Joe Lemaire plus Flouze, Jean-Jacques Burnel des Stranglers, Arnaud de Tissimatic ou encore Alain Bashung. Or, je suis depuis tombé sur une autre archive de Bashung dont je voulais absolument vous passer un extrait. Et pour cause, c'est une archive formidable datant de 1977, c'est-à-dire 2 ans avant qu'il ne décroche un tube et se fasse enfin connaître du grand public avec Gabi. L'émission s'appelle 4 à 4. Elle est diffusée à l'époque le dimanche soir en direct sur le premier programme radio, comme on appelait à l'époque la première, par un Jacques Mercier en réjouissante décontraction. Nous sommes le 18 décembre 77 et Bashung est venu avec celui qui est son parolier fétiche, Boris Bergman.
Alain Bashung avec nous ce soir, qui a amené son petit camarade Boris Bergman pour les paroles de son album. C'est pas ton petit camarade, c'est quoi alors ?
Nous avons, nous avons des rapports de travail.
J'espère bien. C'est pas parce qu'on a dépassé 22 heures que tout de suite, il faut parler de tout ça. Enfin, vous parlerez de tout ça tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de choses à dire sur cette chanson qu'on va écouter maintenant. C'est Kimono. Kimono, d'abord, ça correspond bien aux paroles de Boris et ça ne m'étonnerait point qu'il soit à la base de tout ça, parce que Kimono, chaque fois que je l'ai vu, il était avec des créatures de rêve, avec, aux yeux bridés en tout cas, je crois. Japonaises, je crois, en général, non ?
Oui, en général, oui, je fais dans l'asiatique.
Oui, ouais, non, mais encore.
Non, mais c'est vrai que cette chanson, au départ, c'était 4 lignes qui me sont venues au Japon. Oui. C'est un pays que j'aime beaucoup. Enfin, on peut pas faire l'émission là-dessus, mais à l'occasion, on pourrait peut-être en parler.
Oui. Ça lui revient cher, les chansons qu'il fait. Hein, parce que il y a le dépaysement, ça coûte.
Ouais.
Excuse-moi.
Ouais. Non, mais je t'en prie, je veux dire, c'est vrai.
Pour ton percepteur, je dis ça.
Oui, oui.
Et frais généraux, ça.
Et j'aime beaucoup le Japon, et pour beaucoup de gens, le Japon, c'est un pays où quelques faces jaunes en kimono boivent du Coca-Cola, prennent des photos toute la journée, et où toutes les femmes sont des geishas et les geishas sont des putes. Ce qui n'est pas vrai.
À ce propos, tu remarqueras qu'on a mis l'Empire des Sens en fond sonore.
Oui, j'ai remarqué. Alors que les geishas sont des véritables prêtresses, comme oui. l'étaient les vestales. Et puis, ça m'a un peu agacé, parce que j'ai la chance de connaître le Japon de façon intime, dirais-je, et d'avoir été introduit dans des familles japonaises, et dans des endroits où les touristes ne vont pas. Et il y avait quatre lignes. Et puis, j'ai donné ces quatre lignes à Alain. Et au départ, c'était une petite chanson folk d'ailleurs. Hein. C'était... Et puis c'est en studio où vous avez trouvé le tempo. Alors là, je te laisse la parole par contre.
À partir de ces quatre lignes là, oui.
Ouais, les quatre lignes de toute manière.
C'était les quatre premières.
C'était ouais. Kimono et Coca-Cola, du saké chaud à Osaka, des gingeries avec les geishas. Japon, t'es pas tout à fait ça.
Tu le connais par cœur ?
Ah non ! Absolument. Non, je connais tout ça par cœur, bien sûr. Je prépare mes émissions, oui. Alain.
Non, mais moi, ce qui m'a. Il est fort, hein.
Oh, je ne crois pas.
Mirovska, êtes-vous avec moi là, il y a un dos.
Personne ne le croit.
Il n'y a pas de dos.
Oui, Alain, après.
Bon, ça vient toujours ça vient du fait que. On dit toujours qu'on serait mieux ailleurs. Enfin, bon, c'est.
Puis il y a des images toutes faites sur chaque pays.
Voilà, c'est ça. C'est un peu les pubs qu'on voit quand on se balade en train, aller en Suède, aller en machin. Bon. Et on peut y aller, mais c'est pas forcément là-bas que la solution existe. Enfin, il faut d'abord que ça s'arrange dans la tête. Enfin, c'est un peu. Okay. C'est un peu ce que je voulais raconter. Et puis. Boris, il arrive bien à illustrer un petit peu tout ce que j'ai envie de dire. Donc, ça, c'est vraiment un exemple parfait, ça.
Et là, on se promène de.
Puis nos fantasmes se rejoignent quelquefois.
Ouais. Aussi.
Hein? Bah, j'espère bien, sinon, il n'y aurait pas d'entente.
Sauf certains, sinon, on se taperait dessus.
Aussi. Bah, ça doit faire partie de votre vie aussi.
Oui, on n'aime pas les mêmes créatures. Voilà. Ça d'accord. va, on est ça pour ça. Alors, lui.
Kimono. Dire, je sais pas. Enfin, bon.
Kimono, Alain Bashung, Boris Bergman.
Suite de l'interview d'Alain Bashung réalisée en 1977 par Jacques Mercier dans son talk show radio très libre du dimanche soir, 4 à 4, en compagnie de Boris Bergman, son parolier, celui qui lui écrira bientôt les paroles de Gabi, Vertige de l'amour et bien d'autres. Alors, après avoir évoqué le Japon tout à l'heure, l'Alsace.
Alain Bashung, l'Alsace, c'était les 10 premières années de ta vie. Ça a quand même relativement marqué, non ? Les 10 premières années d'une vie, ça marque en France. Oui. Question en
garde.
Oui,
c'était assez particulier, hein, l'Alsace. C'est-à-dire que déjà au départ, dans le village où j'habitais, on ne parlait pas le français. Donc, c'est-à-dire que c'était très bizarre. Je connaissais un petit peu quelques mots de français quand je suis parti de Paris, parce que je devais avoir, je ne sais pas, les mots qu'on peut connaître à 2 ans. Ensuite, j'ai plus parlé le français, j'ai réappris le français à l'école. Mmh. Et ça c'est déjà important parce que on a. La France c'est loin un peu. C'est... Enfin, à l'époque où j'y habitais, moi. Hein. C'est-à-dire que Paris c'est quand même assez loin. C'est... Paris c'était. On va à Paris pour l'aventure. Hein. C'est. C'était pas du tout évident, c'est-à-dire, bon...
D'où l'expression « monter à Paris », n'est-ce
pas ? Ouais, c'était vraiment, vraiment... Et puis, Paris, c'était aussi mener une vie pas très saine, pas... c'était... Non, mais c'est vrai, écoute. Aller à Paris, c'était pas bien vu. C'était, il va aller à Paris, il va gagner plein d'argent, et puis, bon... Et puis bon, tous ceux qui sont allés à Paris, les Alsaciens, ils ont compris tout de suite hein, que c'était pas...
Oui, mais en fait, tu n'y pensais pas à 10 ans quand même.
Non, enfin, je veux dire...
Enfin, bon, c'était dans l'air.
C'était dans l'air, oui. C'est-à-dire, bon, ma grand-mère, elle était allemande, donc on écoutait toujours la radio allemande, on n'écoutait pas la radio française. Donc déjà au départ, pendant ces 10 années-là, j'ai pas une culture de chansons françaises. C'est-à-dire, j'ai pas connu toute l'époque Jacqueline Boyer ou je sais pas, enfin
tous ces François,
Jacqueline François, oui, enfin des non, mais je veux dire, j'essaie de pas me tromper dans l'époque, tu vois. Et donc, je vais dire, quand je suis arrivé à Paris, les premiers disques que j'ai écoutés, c'était Les Chaussettes Noires et Fais-moi du couscous, chérie.
Oui,
par Bob Azam. Voilà. Donc, la chanson française. Donc, je veux dire, si actuellement je fais les choses qui peuvent, par musicalement, qui peuvent faire penser à
Bob Azam.
Son frère, parce que Cyril.
Oui.
Oh ça y est.
D'accord, voilà. Mais ça explique tout. Quoi.
Ça explique tout, voilà.
Ça explique aussi
pourquoi j'ai des rythmiques de Brassens.
Je crois qu'on comprend entre les lignes ce qui est le plus important, finalement, entre les notes.
Et voilà, ça se passait comme ça, le dimanche 18 décembre 1977, entre 22h et minuit, avec Alain Bashung, Boris Bergman et Jacques Mercier sur le premier programme de la RTBF. Deux numéros de Radio Caroline ont récemment été dédiés au rire de résistance, auquel nous apportons un bonus pour combattre par l'humour tant l'antisémitisme que le racisme anti-musulman. Et ce, grâce à Pierre Desproges, à commencer par ce fameux sketch joué pour la première fois sur scène en 1986.
On me dit que des juifs se sont glissés dans la salle. Vous pouvez rester. N'empêche qu'on ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs, mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste, pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu, et pourquoi j'irais pointer au vélodrome d'hiver ? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette ? Et j'irai aux douches si je veux.
Quelques temps plus tard, Pierre Desproges s'en expliquait.
Je suis né en 1939. Et à la fin de la guerre, je ne me souviens plus de mes... Je n'ai pas de souvenir de mes 5 ans ou de mes 6 ans. Mais de savoir que je suis né à cette époque-là, et qu'ici est passé ce qui s'est passé vis-à-vis des Juifs, c'est un truc que je n'ai toujours pas compris au sens fort, mais que des gens, des administrateurs, justement, aient envoyé des gens par paquets de 1000 se faire oxyre au nom du racisme. C'est un truc, je ne comprends pas que mes parents, par exemple, aient vu ça, à une époque qui est la mienne, c'est pas Léon, c'est pas Attila, c'est la semaine dernière. Ouais. Alors je n'ai jamais compris, avec ma sensibilité et mon intelligence, c'est que je ne peux pas comprendre. Je dis même pas admettre, mais comprendre. Alors, c'est par rapport à mes 47 ans, presque mon demi-siècle sur Terre, c'est la chose sur laquelle je reviens souvent, parce que je ne comprends pas que ça puisse arriver. Et en même temps, j'ai très peur que ça revienne.
Desproges, toujours au sujet de sa fameuse réplique, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui.
J'ai développé l'idée qu'on pouvait rire de tout, mais pas forcément avec tout le monde. Voilà, je m'en tiens là. Mais je crois qu'on peut rire. C'est vrai qu'on n'est pas forcé d'avoir vraiment envie de se marrer quand on a Hitler à côté de soi. Je veux dire, on peut. Hein, bon. Mais on peut rire d'Hitler, en revanche. C'est ça que je veux dire. Et je crois qu'on peut. Non seulement on peut rire de tout, mais on doit rire de tout. Et que le rire, c'est une espèce de palliatif aux angoisses existentielles. Enfin, là, je parle un peu sérieusement, mais je veux dire que. Bon, par exemple, moi, j'ai eu un courrier de gens qui m'ont reproché d'avoir. Ricaner à propos du cancer, et j'en ai même ricané très durement, c'est vrai. Bon, mais ce qu'ils savent pas, c'est que moi, j'ai quelqu'un dans ma famille que j'aime énormément, qui est mort d'un cancer il y a 6 mois, et c'est depuis que j'ai pris le cancer pour cible. Bon, ça peut paraître incompréhensible, mais moi je comprends très bien ça, et je sais qu'il y a des gens qui le comprennent.
C'est une sorte de remède.
Oui, c'est le principe de tout. Oui, c'est ça. C'est le principe de tout ce qu'on appelle, à mon avis, pléonasmiquement, l'humour noir. L'humour noir, c'est commencer par rire de soi, de ses misères à soi, et des choses dont on a peur. La guerre atomique, le cancer, c'est des choses dont il faut rire.
Dans un autre sketch, c'est le racisme anti-musulman que Pierre Desproges cingle. Ça s'appelle « Rachid, où les rues de Paris ne sont plus sûres le soir ».
Les rues de Paris ne sont plus sûres. Vous savez que dans certains quartiers de la capitale, les Arabes n'osent plus sortir tout seuls le soir. Tiens, mon nouvel épicier, monsieur Rachid Cherkaoui, s'est fait agresser la nuit dernière, dans le 18e. Et je l'aime bien, monsieur Rachid Cherkaoui. Il est arrivé dans le quartier il y a 6 mois. Il venait de racheter le fonds de commerce de monsieur et madame Lefranc, qui périclitait. Bah, il faut dire aussi que pendant les heures d'ouverture du magasin, madame Lefranc allait se faire pétrir par le boulanger, pendant que son mari en profitait pour aller boucher la bouchère. Et le reste du temps, l'épicier se recroquevillait sur des enfilades de ballons de muscadet, au rendez-vous Montmartre 3 de la rue Caulaincourt, en compagnie de monsieur Leroy, le boucher. Ils avaient en commun une certaine idée de la France, faite à la fois de fierté municipale, de foi régionale et de front national. Une haine tenace pour les étrangers, les grandes surfaces et l'eau minérale les rapprochait encore.
Voilà, c'était Pierre Desproges en 1986. Parmi les voyages que nous avons faits ensemble, il y a peu, le Japon, d'ailleurs évoqué par Bachung il y a quelques minutes. Et à ce propos, je n'avais pas eu l'occasion de vous parler d'un groupe pop nippon qui date du début des années 70, nommé Happy End, et qui a connu bien plus tard une petite célébrité internationale pour s'être retrouvé en 2003 sur la bande originale du film de Sofia Coppola, Lost in Translation. Happy End, c'est donc le nom du groupe, dont dès 1969, les leaders Takashi Matsumoto et Haruomi Ozono avaient fait le choix de défier les tendances rock de l'époque en chantant en japonais plutôt qu'en anglais. Ma langue maternelle est japonais, la traduire c'est comme ajouter des filtres, changer le sens originel. Cela n'aurait pas correspondu à mon instinct, a récemment expliqué Takashi Matsumoto, 74 ans, à un quotidien britannique. À l'époque, les musiciens admiraient Cream et Jimi Hendrix, tout le monde les imitait et se faisait concurrence, explique l'autre leader de Happy End, Haruomi Ozono. J'ai grandi dans ce milieu, mais avec Happy End, nous avons décidé d'utiliser nos propres mots pour créer quelque chose d'original. Entre 1970 et 1973, Happy End sortira 3 albums, aujourd'hui réédités en vinyle, salués d'emblée par la presse japonaise qui qualifie à l'époque leur album Kazemashi Roman, sorti en 1971, de chef-d'œuvre. Il figure encore régulièrement en tête des classements des meilleurs albums japonais de tous les temps et c'est l'un de ses morceaux, Kaze wo Atsumete, qui se trouve sur la bande originale de Lost in Translation. À l'origine, les deux fondateurs du groupe faisaient partie d'un autre band nommé April Fool, dont le son leur avait permis de se démarquer des groupes qui tentaient vainement d'imiter les Beatles ou les Monkees. Les paroles d'April Fool, on l'entend, étaient encore chantées en anglais, à l'exception cependant d'une chanson en 2 parties, écrite en japonais, et qui évoque la transformation rapide de Tokyo et tout ce qui a disparu avec cette transformation. Les Jeux olympiques de Tokyo de 1964 ont tout changé, explique Matsumoto, auteur de ce morceau. Les rivières qui traversaient Tokyo ont été comblées, des autoroutes et des voies rapides ont été construites, les tramways ont été supprimés pour laisser la place aux voitures. Tous ces travaux ont bouleversé le paysage, le ciel est devenu invisible, désormais on ne pouvait presque plus le voir. April Fool se séparera après que le chanteur aura décroché un rôle dans la version japonaise de la comédie musicale Air. Et c'est l'époque où Matsumoto et Ozono s'intéressent de plus en plus aux groupes de rock de la côte ouest américaine tels que Buffalo Springfield, Grateful Dead et Moby Grape, leur souhait étant de créer un nouveau groupe inspiré par cette scène. Ozono recrutera le chanteur et guitariste Otaki, qui apportera une touche mélodique influencée par les Beatles, et le guitariste Suzuki complétera la formation, qui s'appellera donc Happy End. Nous exprimions nos pensées avec sincérité, passion, sans être bridés par les adultes. Nous étions purs. C'est le mot qui nous décrit le mieux, explique Suzuki lorsqu'on lui demande comment Happy End s'inscrivait dans le paysage rock tokyoïde du moment. Sorti en 1970, leur premier album, qui porte le nom du groupe, impressionne d'emblée, je le disais, la critique par son mélange de sonorités incisives et d'influences japonaises. Fort de cet accueil très positif, très enthousiaste de la presse, Happy End retournera en studio, déterminé à prouver que le rock japonais peut réellement s'épanouir. Nous avons peaufiné nos points forts, défini les directions que nous voulions prendre et nous nous y sommes consacrés pleinement, explique Matsumoto. Ces textes s'enrichiront de détails et de contrastes évoquant le Tokyo d'avant les Jeux Olympiques qui lui manque tant, c'est presque une obsession, cet album se distinguant par la cohésion et l'harmonie du groupe. Cela dit, si l'engouement critique est immédiat, le succès commercial se fera attendre en même temps que la reconnaissance populaire. Entre-temps, le groupe aura enregistré son dernier album en 1973 au studio Sunset de Los Angeles, terre de leur héros américain. Bye bye. On pensait avoir fait de notre mieux, alors après ça, on a voulu essayer autre chose, tenter des projets solos, et on a passé moins de temps ensemble. Je le regrette, raconte Matsumoto, qui ajoute avec humour, j'ai l'impression que mon copain Osono essayait surtout de créer toujours de nouveaux groupes. Un jour, alors que nous étions dans le train à grande vitesse, j'étais stupéfait de le voir noter sur une petite feuille toute une série de noms que pourraient porter de futurs groupes. Parmi les membres, Suzuki connaîtra une brillante carrière solo. Otaki deviendra un artiste pop et producteur très apprécié, sortant des albums jusqu'à sa mort en 2013. Matsumoto deviendra l'un des paroliers les plus célèbres du Japon, collaborant avec de grands noms de la pop. Osono, quant à lui, fondera Yellow Magic Orchestra en 1978, avant de participer à de nombreux autres projets musicaux. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire connaître, à le partager, à l'étoiler. Belle journée ou bonne nuit. Radio Caroline.
We're on the air. Classic 21. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.